L'avènement du bouclier de défense et du laser, dont l'interaction explosive menaçait l'attaquant au même titre que le défenseur, fut à l'origine de l'évolution actuelle de la technologie de l'armement. Nous n'insisterons pas sur le rôle particulier des atomiques. Certes, on ne peut s'empêcher d'éprouver quelques craintes en songeant que n'importe quelle famille de notre empire est en mesure de détruire une cinquantaine de bases d'autres familles grâce à ces atomiques. Mais nous disposons tous de plans de représailles dévastatrices. La Guilde et le Landsrad peuvent faire échec à cette puissance. Je m'inquiète surtout du développement de certains humains considérés comme de véritables armes spéciales. Ceci ouvre, à partir de quelques pouvoirs, un domaine virtuellement sans limite. Muad'Dib, conférence au Collège de guerre, extraite des Chroniques de Stilgar. Dans les yeux bleus du vieil homme qui se tenait sur le seuil, il y avait cette méfiance que manifestaient toujours les gens du désert à l'égard des étrangers. À travers sa barbe clairsemée, Sital distinguait les rides amères qui entouraient sa bouche. Il ne portait pas de distille, et il était significatif qu'il parut ignorer ce fait tout en ayant pleinement conscience du torrent d'humidité qui s'échappait de sa maison par la porte ouverte. Sital s'inclina et fit le signe convenu. Quelque part derrière le vieil homme s'éleva la plainte d'un rebec, dans la dissonance atonale propre à la musique de la semouta. Rien dans l'attitude du vieil homme ne révélait la langueur de la drogue. Il y avait donc quelqu'un d'autre dans la demeure dont c'était le vice. Mais un vice aussi sophistiqué en un tel lieu semblait bien étrange, se dit Sital.
Le salut d'ailleurs, dit Sital.
Un sourire animal et très plat du visage qu'il avait choisi pour la circonstance. Il lui vint à l'idée soudain que le vieil homme pourrait bien reconnaître ce visage. Les plus vieux Fremen de Dune avaient connu Duncan Idaho. Ce choix, qu'il avait jugé amusant, pouvait être en fait peu judicieux. Mais il ne pouvait plus se permettre de modifier ses traits maintenant. Nerveusement, il tourna la tête et observa la rue. Le vieil homme allait-il se décider à l'inviter à entrer ?
Connaissiez-vous mon fils ?
C'était l'une des réponses prévues, et Sital prononça les paroles requises sans rien perdre de sa vigilance. Cette situation ne lui plaisait guère. La ruelle s'achevait en cul-de-sac avec cette demeure. Alentour, les autres maisons avaient été construites pour les vétérans du djihad. Le quartier constituait un faubourg d'Arakin qui s'étendait dans le bassin impérial au-delà de Tiemag. Les façades brunes, de part et d'autre de la ruelle, n'étaient marquées que par les rectangles obscurs des portes scellées et parfois par des graffitis obscènes. À quelques pas de la demeure du vieil homme, une inscription proclamait que Beris avait rapporté sur Arrakis la redoutable maladie qui lui avait ôté toute virilité.
« Venez-vous avec un partenaire ?» demanda le vieil homme.
« Je viens seul, » dit Sital.
Le vieil homme se racla la gorge. Il hésitait encore, et Sital s'efforça à la patience. Cette façon de prendre contact comportait bien des dangers, et sans doute le vieil homme avait-il de bonnes raisons de procéder ainsi. Pourtant, l'heure était propice. Le pâle soleil était presque au zénith, et les gens du quartier restaient dans leur demeure pour faire la sieste durant les moments les plus chauds. Était-ce le voisinage, justement, qui inquiétait le vieil homme ? Se demanda Sital. La maison la plus proche, il le savait, était celle d'Oseïm, qui avait jadis appartenu au redoutable commando des Fedaïkin. Et Bijaz, le nain cataliste, se trouvait avec lui. Il revint au vieil homme et remarqua la manche vide qui pendait à son épaule gauche. Il remarqua aussi l'expression autoritaire. Le vieil homme, durant le djihad, n'avait pas été avec la piétaille.
« Puis-je connaître le nom de mon visiteur ?»
Sital faillit pousser un soupir de soulagement. Enfin, il était accepté.
« Je me nomme Zal, »
dit-il, employant le nom choisi pour cette mission.
« Mon nom est Farok, » dit le vieil homme. « Pendant le djihad, j'étais bachar de la 9e Légion. Est-ce que cela vous dit quelque chose ?»
Sital comprit la menace cachée.
« Vous êtes né dans le Siech Taber avec allégeance à Stilgar. »
Farrokh se détendit et fit un pas de côté.
« Bienvenue dans ma demeure. »
Sital s'avança dans l'entrée plongée dans la pénombre. Le sol était dallé de bleu et des incrustations de cristal scintillaient au mur. Au-delà, il découvrit une cour intérieure. La lumière filtrée avait la qualité opalescente de la clarté de la première lune. Derrière lui, il perçut le chuintement de la porte extérieure qui se refermait sur ses joints.
« Nous étions un peuple noble, » dit Farrokh en précédant son visiteur. « Nous ne vivions pas alors dans les creux ou les sillons, comme maintenant. Notre siège se trouvait dans le bouclier, au-dessus de la chaîne de Habania. Les vers nous portaient jusqu'à Kedem, le désert de l'intérieur. »
« Oui, ce n'était pas comme aujourd'hui, » dit Sital, comprenant ce qui avait amené le vieil homme à se joindre à la conspiration.
Le regret des jours anciens, des coutumes disparues. Ils s'avancèrent dans la cour intérieure. Sital se rendit compte que Farrokh luttait contre une intense hostilité à l'égard de son visiteur. Les Fremen éprouvaient de la défiance pour les yeux qui n'avaient pas le bleu de l'Ibad. Selon eux, les étrangers des autres mondes, avec leur regard flou, pouvaient surprendre des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. La musique de la Semouta s'était tue à leur entrée. Lui succédait maintenant un accord de balisette, puis les premières notes d'une chanson très à la mode sur les planètes de Narraj. Comme son regard s'adaptait à la clarté, Sital découvrit un jeune homme accroupi sur un divan bas, entre les arcades qui s'ouvraient à droite. Sous ses orbites, il y avait deux puits obscurs. Obéissant à l'étrange instinct des aveugles, il se mit à chanter à la seconde même où les yeux de Sital se posaient sur lui, d'une voix douce et claire. Le vent a soufflé sur la terre et balayé le ciel au loin et chassé tous les hommes. Qui es-tu, le vent? Les arbres dressent leurs branches, sur le pays des hommes ils s'étanchent. J'ai connu trop de monde, j'ai vu trop de gens. J'ai frôlé bien trop d'arbres et senti trop de vent. Les paroles, se dit Sital, n'étaient pas exactement celles de la chanson. Farrokh l'entraîna jusqu'aux arcades opposées et lui désigna des coussins disposés sur les dalles décorées de figures marines.
« Celui-ci, dit-il en désignant un coussin noir et rond, a été occupé par Mouad-Dib au jour du siège. C'est à vous qu'il revient maintenant.
« Je suis votre obligé, » dit Sital en prenant place.
Il sourit. Farrokh faisait preuve de sagesse. Il parlait le langage de la loyauté, même en écoutant des chansons au sens caché et des mots qui étaient autant de messages secrets. Qui pouvait nier les terrifiants pouvoirs de l'empereur tyran? Sans briser le rythme de la chanson, Farrokh demanda
« Cette musique que joue mon fils vous dérange-t-elle ? »
Sital désigna le coussin qui se trouvait en face de lui, appuya sa tête contre la fraîcheur d'une colonne et dit
« J'aime la musique. »
« Mon fils, reprit Farrokh, a perdu ses yeux lors de la prise de Narraj. Il y a été soigné et il aurait dû rester là-bas. Désormais, il n'appartiendra à aucune femme du peuple. Cela me semble étrange, pourtant, de savoir que j'ai sur les mondes de Narraj des petits-enfants que je ne connaîtrai jamais. Mais vous, Zal, avez-vous visité les mondes de Narraj?
Durant ma jeunesse, avec les danseurs visages de ma troupe, répondit Sital.
Ainsi vous êtes un danseur visage. Je me suis posé la question en vous voyant. Votre visage me rappelle un homme que j'ai connu.
Duncan Idaho?
Oui, précisément. Un lieutenant fidèle de l'empereur. Il a été tué, à ce que l'on dit.
À ce que l'on dit, oui.
Mais êtes-vous vraiment un homme? J'ai entendu certaines histoires à propos des danseurs visages.
Il n'acheva pas sa phrase et haussa les épaules.
Nous sommes, dit Sital, des hermaphrodites Jadasha. Nous changeons de sexe à volonté. Pour l'instant, je suis un homme.
Farrokh eut une moue songeuse, puis demanda
« Puis-je vous offrir des rafraîchissements? Voulez-vous de l'eau? Un fruit glacé ?»«
Je me contenterai de notre conversation, » dit Sital.
Le désir de l'invité fait loi.
Farrokh prit place sur le coussin en face de Sital.
« Béni soit Aboud Dour, père des routes immatérielles du temps, » dit Sital.
Et il pensa, « Et voilà,
je viens de lui dire tout net que je viens de la part d'un navigateur de la guilde et que je bénéficie de sa protection.
« Trois fois béni !» répondit Farok en joignant les mains ainsi que le voulait le rite.
Des mains anciennes, aux veines noueuses.
« Un objet vu à distance ne révèle que son principe, » poursuivit Sital, indiquant par là qu'il souhaitait discuter de la citadelle de l'empereur.
« Ce qui est sombre et mauvais restera mauvais à n'importe quelle distance, » dit Farok, l'invitant à patienter quant à ce sujet.
« Pourquoi ?» s'interrogea le Tleilaxu. Dans le même temps, il demandait « Comment votre fils a-t-il perdu la vue ?»
Le défenseur de Narraj se servait d'un brûle-pierre. Mon fils était trop près. Maudits soient les atomiques. Le brûle-pierre lui-même devrait être proscrit.
C'est une façon de tourner la loi, dit Sital. Et il songea,
un brûle-pierre sur Narraj? On ne nous a jamais révélé cela, pourquoi me le dit-il?
J'ai voulu acheter à vos maîtres des yeux Tleilaxu, reprit Farok. Mais il court une histoire parmi les légions qui veut que les yeux Tleilaxu réduisent en esclavage ceux qui les acceptent.
Mon fils m'a prétendu que de tels yeux sont de métal, et que, lui étant de chair, une telle union serait un péché.
Le principe d'un objet, quel qu'il soit, doit correspondre à son but originel, rétorqua Sital, essayant de ramener la conversation à son sujet initial. Les lèvres de Farok devinrent deux traits étroits, mais il hocha la tête.
Parlons ouvertement de ce que vous êtes venu chercher. Nous devons faire confiance à votre navigateur.
Avez-vous pénétré dans la citadelle de l'empereur?
Pour les fêtes d'anniversaire de la victoire de Molitor.
Je m'en souviens.
Les meilleurs réchauffeurs d'Ix n'avaient pu venir à bout du froid de cette pierre.
Nous avions passé la nuit précédente sur la terrasse du temple d'Alia. Il y a des arbres en cet endroit, des arbres de tous les mondes.
Nous autres, les Bachars, nous portions nos plus belles robes vertes et nos tables avaient été dressées à l'écart. Nous avons mangé et bu en excès.
Certaines des choses que j'ai vues alors m'ont dégoûté.
Les blessés se sont mêlés à la fête, se traînant sur leurs béquilles. Je ne crois pas que notre Mouad Dib sache vraiment combien d'hommes il a mutilés.
Vous n'approuviez pas cette fête? Demanda Sital, songeant aux orgies frémènes nourries de bière d'épices.
Cela n'avait rien à voir avec la communion des âmes dans nos sièges. Le taux était absent. On avait amené des filles esclaves pour la troupe et les hommes passaient leur temps à se raconter leurs batailles et leurs blessures.
« Ainsi vous avez pénétré dans ce grand tas de pirailles, » dit Sital.
Mouad Dib est venu jusqu'à nous sur la terrasse. Il nous a dit « Que la fortune soit avec nous. »
Oui.
Il a employé le salut du désert dans cet endroit maudit.
Saviez-vous où sont situés ces appartements privés?
Quelque part, loin dans la citadelle. Très loin. J'ai entendu dire que Mouad Dib et Shaini mènent une sorte de vie de nomade dans la citadelle même. Il apparaît dans le grand hall pour les audiences publiques et il dispose aussi de salons de réception ainsi que d'une aile complète pour sa garde personnelle. Il y a aussi des salles pour les cérémonies et un secteur réservé aux communications. Je me suis laissé dire également qu'il existe sous la forteresse une chambre où il garde en permanence un verre avorton entouré d'eau. « C'est là, dit-on, qu'il lit l'avenir. »
La légende constamment mêlée aux faits, se dit Sital.
Tout le personnel qu'exige le protocole gouvernemental l'accompagne en permanence, reprit Farok.
« Mais il ne fait vraiment confiance qu'à Stilgar et aux anciens compagnons des premiers jours. »«
Pas à vous, dit Sital. »
« Je crois qu'il a oublié que j'existe. »
« Comment quitte-t-il la citadelle ?»
Il dispose d'un petit orni dans une enceinte intérieure. On dit que Mouad Dib ne permettrait jamais à personne d'autre de piloter pour se poser en un pareil endroit. La plus infime erreur précipiterait l'orni par-dessus la muraille dans l'un de ces satanés jardins.
Sital hocha la tête.
Cela paraissait très probable. Cet accès par la voie des airs était une mesure de sécurité suffisante. Les Atréides avaient toujours été des pilotes de grande classe.
Pour ses messages d'istrance, dit Farok, il utilise des hommes. Cela vous diminue un homme que de porter un traducteur d'ondes greffées. La voix d'un homme devrait toujours demeurer la sienne. Elle ne devrait pas porter le message d'un autre homme caché dans les replis de ses tonalités.
Sital haussa les épaules. Tous les grands de tous les mondes se servaient du distrans. On ne pouvait jamais être sûr des obstacles qui se trouvaient entre l'expéditeur et le destinataire. Le distrans défiant toute analyse cryptologique, puisqu'il était basé sur de subtiles distorsions des sons naturels, qui pouvaient atteindre une effroyable complexité.
Même les agents des impôts utilisent cette méthode, dit Farrokh. De mon temps, les distrans n'étaient implantés que sur des animaux inférieurs.
Mais le montant des impôts doit demeurer secret, se dit Sital. Plus d'un gouvernement s'est effondré pour n'avoir pas su cacher au peuple le montant de ses revenus.
Que pensent les cohortes Fremen du djihad tous ces temps? Sont-elles opposées à la déification de leur empereur?
La plupart ne tiennent pas compte de cet aspect. Ils considèrent le djihad, tout comme moi, comme une source d'expériences exotiques, d'aventures, de richesses. Ce sale trou dans lequel je vis,
Farrokh leva la main pour désigner la cour,
m'a coûté 60 lidas d'épices, 90 contarses. Il fut un temps où jamais je n'aurais imaginé qu'une telle richesse fût possible.
Il secoua la tête. De l'autre côté de la cour, le fils aveugle joua les premières notes d'une ballade d'amour.
90 contarses, se dit Sital. Comme c'est étrange. C'est une somme, très certainement.
Ce trou serait un véritable palais sur n'importe quel monde, mais toute chose est relative, même le comptard, finalement.
Farrokh, par exemple, sait-il seulement d'où vient cette mesure de poids d'épices? S'est-il jamais dit qu'un comptard et demi représentait autrefois la limite de la charge que pouvait enlever un chameau?
C'est peu probable.
Farrokh n'a sans doute jamais entendu parler d'un chameau,
ni même de l'âge d'or de la terre.
Suivant toujours le rythme de la balisette, Farrokh reprit.
Je possédais un kris, des anneaux d'eau pour 10 litres, la lance qui avait appartenu à mon père, un service à café et une bouteille de verre rouge qui était plus ancienne que mes souvenirs. J'avais ma part sur l'épice, mais pas d'argent. J'étais riche et je l'ignorais. J'avais aussi 2 épouses. L'une m'était chère et l'autre était stupide et têtue, mais elle avait le visage d'un ange. J'étais un naïb parmi les Fremen. J'avais chevauché le ver. J'étais le maître du Léviathan des sables.
Dans l'ombre, la balisette changea de rythme.
Je savais bien des choses sans ressentir le besoin d'y penser, continua Farrokh. Je savais qu'il y avait de l'eau loin sous le sable, gardée par les petits faiseurs. Je savais que mes ancêtres sacrifiaient des vierges à Shai Hulud avant que Liet Kynes n'y ait mis un terme. Ils ont eu tort de lui obéir. J'avais vu les joyaux dans la gueule du ver. Mon âme avait 4 portes et je les connaissais toutes.
Il se plongea dans un silence songeur.
Alors l'Atréide vint avec sa sorcière de mer, dit Sital.
L'Atréide vint. Celui que nous appelions Ouzoul dans notre siège, car tel était son nom pour nous. Notre Mahdi, notre Muad'Dib.
Et lorsqu'il nous appela pour le djihad, je fus l'un de ceux qui demandèrent « Pourquoi irais-je combattre là-bas? Je n'y ai point de parents. » Mais il y eut d'autres hommes pour le suivre, des jeunes, des compagnons, des amis d'enfance. Et lorsqu'ils revinrent, quand ils revinrent, ils parlèrent de sorcellerie, de la puissance et du pouvoir du sauveur Atréide. Il avait combattu nos ennemis, les Harkonnen. Liet Kynes, qui nous avait promis le paradis, lui avait donné sa bénédiction. On disait que cet Atréide était venu pour changer notre monde, notre univers, qu'il allait faire éclore des fleurs dorées dans la nuit.
Farrokh leva les mains et examina ses paumes.
Les hommes alors montrèrent la première lune et dirent « Son âme réside là ».
Ainsi il fut nommé Muad'Dib.
Je ne comprends pas tout cela.
Il baissa les mains et regarda son fils.
Je n'avais nulle pensée en tête. Je n'en avais que dans mon cœur, dans mon ventre, dans mon sexe.
De nouveau, le rythme de la balisette changea, s'accéléra.
Savez-vous pourquoi je me suis engagé dans le djihad? J'ai entendu dire qu'il existait une chose que l'on appelait la mer. Il est très difficile de croire qu'une telle chose puisse exister quand on vit entre les dunes. Nous n'avons pas de mer. Jamais les hommes de dunes n'en avaient contemplé une.
Nous n'avions que nos pièges avant. Nous récoltions l'eau pour le grand changement que Gedkinds nous avait promis et que Muad'Dib nous a offert d'un simple geste de la main. Bien sûr, je pouvais imaginer un Kanat, l'eau prisonnière cheminant dans le sable, et à partir de cela, je pouvais me représenter une rivière. Mais une mer. Il leva les yeux vers le plafond translucide, comme s'il essayait d'apercevoir les autres mondes. Une mer, dit-il dans un murmure. C'était trop pour mon esprit, pour mon imagination. Pourtant, certains hommes que je connaissais alors m'avaient dit avoir contemplé cette merveille. Je croyais qu'ils mentaient, mais il fallait que je m'en assure par moi-même. C'est pour cette seule raison que je me suis engagé.
Le fils aveugle plaqua un dernier accord sur la balisette. Il y eut quelques secondes de silence, puis il entonna une nouvelle chanson au rythme étrangement sinueux.
« Et cette mer, vous l'avez trouvée ?» demanda Sital.
Le vieil homme ne répondit pas tout de suite, et le Tleilaxu pensa un instant qu'il n'avait pas entendu sa question. La musique était comme une marée impalpable à présent, et Farok semblait respirer à son rythme.
« J'ai vu d'abord un crépuscule, » dit-il enfin.
Un de nos anciens artistes aurait peut-être pu peindre un tel crépuscule. Il était du rouge de ma vieille bouteille. Il y avait aussi de l'or et du bleu. C'était sur un monde appelé Enfel, celui-là même où j'ai conduit ma légion à la victoire. Nous avions franchi une passe dans les montagnes où l'air était lourd d'humidité, si lourd que je pouvais à peine respirer. Et c'est alors que j'ai vu ce que mes amis m'avaient dit avoir vu. De l'eau. De l'eau, aussi loin que pouvait porter mon regard. Nous sommes descendus jusqu'à cette eau. Nous avons marché dedans, nous avons bu, nagé. Elle était amère et elle m'a rendu malade. Mais jamais plus je n'oublierai ce que j'ai vu.
Une seconde, Sital partagea l'émerveillement mélancolique du vieil homme.
Oui, je me suis plongé dans cette eau, reprit le Fremen en abaissant son regard sur les formes marines du dallage.
Et sans doute est-ce un autre homme qui en a émergé, car j'ai eu ensuite l'impression que je pouvais me souvenir d'un passé qui jamais n'avait été. J'ai regardé autour de moi avec des yeux qui pouvaient tout accepter, n'importe quoi. J'ai aperçu un corps dans cette eau, celui d'un des défenseurs que nous avions massacrés. Tout près de là, il y avait une pièce de bois qui flottait, un grand tronc d'arbre. En fermant les yeux, je le revois. Il était noirci à une extrémité. Il avait dû brûler. Il y avait aussi un bout d'étoffe dans l'eau, un bout d'étoffe jaune, sale. J'ai regardé ces choses et j'ai compris pourquoi elles se trouvaient là. C'était pour que je les voie.
Lentement, il leva les yeux et regarda Sital en face.
L'univers est inachevé, comprenez-vous ?
Verbeux mais profond, songea le Tleilaxu.
Il dit : Je vois que cela vous a beaucoup impressionné.
Vous êtes un Tleilaxu. Vous avez vu bien des mers, mais je n'en ai vu qu'une seule. Pourtant, je sais maintenant une chose sur les mers. Une que vous ignorez.
Sital sentit se refermer sur lui l'étreinte désagréable d'une vieille inquiétude.
La mer du chaos est née de la mer, dit Farok. Un Kwisara Tafwid était là quand je me suis plongé dans toute cette eau.
Il n'y est pas entré, il est resté sur le sable qui était humide, avec ceux de mes hommes qui avaient peur comme lui. Et quand il m'a regardé, j'ai lu dans ses yeux qu'il savait que j'avais compris quelque chose qui lui était refusé. J'étais devenu une créature marine, et il avait peur de moi. L'eau m'a guéri du djihad, et je crois qu'il l'a tout de suite compris.
Sital prit conscience que la musique s'était tue. À quel moment il n'aurait su le dire, et cela le troubla. Farok reprit à cet instant, comme si l'enchaînement était logique.
Chacune des portes est gardée. Il n'existe aucun moyen de pénétrer dans la citadelle de l'empereur.
C'est bien là sa faiblesse, dit Sital.
Farok redressa la tête, curieux.
Il existe un moyen. Et le fait que la plupart des gens, l'empereur y compris, il faut l'espérer, pensent autrement,
est tout à notre avantage. » Il se tut et lentement porta les mains à ses joues, conscient brusquement de l'étrangeté des traits qu'il avait choisis. Le silence de la balisette continuait de l'inquiéter. Cela signifiait-il que le fils de Farok avait cessé d'émettre? Le message condensé était inscrit dans la musique. Il s'était imprimé dans le système nerveux de Cital, où il pourrait être recueilli plus tard grâce aux distrances implantées dans son cortex. Désormais, il portait en lui des mots inconnus. Il était riche de renseignements inouïs. La situation de chacune des cellules de la conspiration sur Arrakis. Chaque nom. Chaque phrase de contact. Avec ces informations capitales, il pourrait affronter Arrakis, capturer un ver des sables et entreprendre la culture du mélange hors du pouvoir de Muad'Dib quelque part. Il pourrait briser le monopole et Muad'Dib dans le même temps. Il pourrait entreprendre bien des choses avec ces informations. «
Nous avons la femme ici, » dit Farok. « Souhaitez-vous la voir maintenant ?»«
Je l'ai vue. Je l'ai soigneusement étudiée. Où est-elle ?»
Farok claqua les doigts. Le jeune homme prit son rebec et son archet. Un accord de musique s'émoutta jaillit des cordes. Comme si elle eût obéi à ce son, une jeune femme en robe bleue apparut près du musicien. Ses yeux, qui avaient le bleu de l'Ibad, étaient noyés dans le flou du narcotique. Cette jeune frémène accoutumée à l'épice était maintenant prise au piège d'un vice étranger. Ses perceptions étaient enfouies loin sous la semouta, liées à l'extase de la musique.
« La fille d'Oseim, » dit Farok.
Mon fils lui a administré le narcotique dans l'espoir de gagner ainsi une femme du peuple, en dépit de sa cécité. Mais sa victoire est vaine, bien sûr. La Semouta lui a pris ce qu'il convoitait.
Son père ne sait rien ? Demanda Cital.
Elle-même ne sait rien. Mon fils lui instille de faux souvenirs qu'elle place dans ses conversations à chaque visite. Elle croit l'aimer, et c'est aussi ce que croit sa famille. Ils en souffrent parce que mon fils n'est pas un homme complet, mais ils ne manifesteront aucune opposition, bien sûr.
Sur un geste du musicien, la jeune femme s'assit à ses côtés et se pencha pour entendre ce qu'il lui murmurait.
« Qu'allez-vous faire d'elle ? » demanda Farok.
Cital promena de nouveau son regard sur la cour. « Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison ? » ?»«
Nous sommes tous présents. Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous entendiez faire d'elle. Mon fils désire le savoir. »
Comme s'il s'apprêtait à répondre, Cital tendit la main droite.
Une aiguille scintillante surgit de sa manche et s'enfonça dans le cou de Farok.
Le Fremen ne vacilla pas, n'émit pas le moindre son. Avant une minute, il serait mort, mais il demeurait parfaitement immobile, paralysé par le poison. Lentement, Cital se remit sur pied et s'approcha du jeune musicien aveugle. Celui-ci murmurait encore à l'oreille de la jeune femme quand le dard l'atteignit.
Cital prit le bras de la fille de Seim et la fit se lever avec douceur, tout en modifiant rapidement ses traits.
Lorsqu'elle le regarda, elle demanda « Que se passe-t-il, Farok ?»«
Mon fils est là. Il doit se reposer, » dit Cital. « Viens, il faut repartir. »
« Nous avons parlé. Je crois que je suis parvenu à le convaincre d'accepter les yeux de Leilaxu. Bientôt, il sera de nouveau un homme complet. »
N'ai-je pas dit cela bien souvent ?
Tout en l'entraînant vers l'arrière de la maison, il constata avec une certaine fierté que sa voix correspondait tout à fait à son apparence. Il croyait entendre le vieux Fremen qui devait être mort maintenant. Il soupira. Il avait agi en toute sympathie et, très certainement, ses victimes avaient eu conscience du danger qu'elles couraient. À présent, il devait donner sa chance à cette jeune femme.